Des choses extraordinaires depuis que le monde existe. Alors Arthur, es-tu bien concentré? Car aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une énigme. J'ai intitulé cette épreuve de Enigma, car Enigma était une machine créée au début du siècle précédent, servant à déchiffrer toutes sortes d'informations, et notamment les messages chiffrés que pouvaient s'envoyer les armées en temps de guerre, pour ne pas que leurs ennemis puissent les découvrir. Cette machine diabolique a causé beaucoup de soucis aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, car elle était aux mains des Allemands.
Waouh ! Mais là, tu me parles de la préhistoire !
Bref, énigme, car il va te falloir une sacrée dose de perspicacité pour découvrir l'énigme que voilà. Es-tu prêt ?
Tu es bien énigmatique, grand-père. À mon avis, si tu parles d'une machine du siècle précédent, j'ai bien peur que ton énigme soit, disons, un jeu d'enfant avec un moteur de recherche du 21e siècle.
Ah, excellente idée. Je vais te poser les questions de l'énigme que tu taperas sur ton moteur de recherche et nous verrons. À mon avis, tu risques de te lasser très vite si tu ne réfléchis pas un peu avant. Malgré tout, tu ne m'enlèveras pas l'idée que le cerveau humain est supérieur à la machine.
Effectivement, ça c'est une idée du début du siècle passé. Tu sais, grand-père, que d'ores et déjà, au jeu d'échecs comme au jeu de Go, la machine l'emporte sur l'homme.
Ok, jeune prétentieux, montre-moi ce qu'il en est. Tiens, puisque nous parlons de cerveau, je vais te poser la première question. Qu'est-ce qui n'a pas de cerveau et qui pense ?
Qu'est-ce qui n'a pas de cerveau et qui pense ? Déjà, pas moi.
Ah, certes, tu as un cerveau, mais pour ce qui est de penser...
Ah, grand-père, elle est très bonne, celle-là, je la garde pour papa qui a réponse à tout. Que nous dit Google ? Est-ce le cerveau qui pense ? Aïe, ça commence bien. Évidemment, si le cerveau ne pense pas, autre chose. Comment fonctionne le cerveau ? Et là, ils nous disent... Mais je vous l'ai dit, nous les avons analysés. Ils sont en viande d'un bout à l'autre. Mais ils n'ont pas de cerveau. Si, il y a bien un cerveau, mais ce cerveau est en viande. Alors, qu'est-ce qui fait la pensée ? Ouh, ouh, ah oui, si le cerveau est en viande. Ceci dit, papa adore la tête de veau. Et ce n'est que de la gélatine. On voit mal une pensée sortir de la gélatine.
Tu ne crois pas si bien dire, Arthur. Comme si une pensée pouvait sortir de la gélatine. Ton Google est très instructif. Mais toujours pas de réponse à notre question.
Plus loin, je lis. Psychanalyse ou barbarie ? C'est vrai que manger de la cervelle de veau, c'est plutôt barbare. Plus loin encore, œuvre complète de Chateaubriand. Qui nous dit, si elle est incréée, je suppose qu'il parle de la pensée, cette nécessité qui arrange tout, qui produit tout dans un si bel ordre, qui est indivisible, sans étendue, est-elle autre que Dieu ? Eh bien voilà, l'énigme est résolue, c'est Dieu.
Alléluia ! Voilà une réponse qu'elle est bonne. Si Google fait appel à Dieu, alors là, il est sûr d'avoir réponse à tout. Bon, de fait, et tu en fais la preuve, entre Google, la machine et Dieu. Il y a un peu de place pour l'homme, non ? Alors, je suis obligé de te dire que la réponse est fausse. Ma question ne concerne pas un être immatériel, à qui, après tout, on peut offrir toutes les propriétés, mais bel et bien un être de chair qui n'a pas de cerveau et qui pense.
Peu cher, comme on dit à Marseille. Un être de chair qui m'est cher et qui est cher, par exemple. Je ne donne pas cher de ta peau.
Comment ça, Arthur ?
Non, non, c'est Google. J'ai tapé « être de chair qui pense et qui n'a pas de cerveau » et la réponse, c'est « on pense autant avec sa peau qu'avec son cerveau ».
On est bien avancé.
Et encore, le monde matériel existe-t-il objectivement en dehors de nos pensées ?
Encore mieux. Et Dieu, dans tout cela ?
Eh bien, justement, Voltaire. Donc, c'est Dieu qui me donne les idées, les sentiments, selon les lois par lui, arbitrairement.
L'alliance de Dieu et de Voltaire. Voilà de quoi renverser des perspectives. Mais on n'avance pas plus.
D'accord, j'abdique. Tu as gagné, je ferme Google et je donne ma langue au chat.
Pas encore. Une deuxième question. Nous avons parlé précédemment des champignons qui font pleuvoir grâce à leur spore. Eh bien, cet être qui pense sans cerveau produit des spores comme les champignons, mais n'est pas un champignon. Alors ?
Ah, ça m'embouche un coin.
Je t'aide. Il est coloré comme une plante.
Mais ce n'est pas une plante.
Juste, car il marche. Enfin, il se déplace.
Donc, cet être n'a pas de cerveau, mais pense. Produit des spores, mais ce n'est pas un champignon. Est vert comme une plante, mais marche. Je sais, c'est un oiseau.
Mais un oiseau, ça a un cerveau.
Sauf un canard à qui on vient de couper la tête. Un canard sans tête, ça continue à courir.
Et surtout, ça pense énormément. Eh bien non, ce n'est pas un canard ni un oiseau.
Je sais, un ovni.
Les extraterrestres à la rescousse. Bon, allez, encore une perche que je te tends, mais là, c'est carrément énorme. Figure-toi que cet être sans cerveau qui pense, produit des spores et n'est pas un champignon, qui est vert comme une plante mais marche, peut être découpé en 1000 morceaux et non seulement ne meurt pas, mais se reconstitue intégralement.
Alors ça n'existe pas. C'est une énigme sans solution. Mais c'est carrément impossible.
Et pourtant, ça existe bien. Tu me donnes ta langue au chat ?
Si ça existe, c'est carrément de la science-fiction en réel.
Exactement. Cet être extraordinaire, c'est le Physarum polycéphalum. Ça te laisse bouche bée. Et justement, c'est tellement de la science-fiction qu'on lui a donné le nom commun du titre d'un film de science-fiction, le Blob.
Le Blob ? Ça fait pas sérieux !
Eh bien, justement, le Physarum polycéphalum, autrement dit le Blob, est un être tellement inconcevable mais vrai que, en plus de ce que je te dis, il a des goûts culinaires pour choisir entre plusieurs combinaisons moléculaires ce qui lui va bien et rien que cela.
J'espère qu'il est allergique à l'homme, car devant un tel être, nul ne pourrait lui résister.
Je te rassure de suite, sa nourriture de prédilection est le champignon.
Mais avec de tels arguments, pourquoi n'a-t-il pas conquis la planète et supplanté l'homme ?
Eh bien, il a conquis toute la planète. Mais heureusement, il est inoffensif pour l'homme. Et heureusement, parce qu'il est présent sur Terre depuis 500 millions d'années. Et donc, il aurait laissé bien peu de place à l'homme s'il avait été agressif. Bon, tu veux que je te résume ?
D'accord.
Je te résume, mais j'en rajoute car je ne t'ai pas tout dit.
Vas-y, mais c'est déjà totalement dingue.
Voilà le tableau. Et du reste, quand tu disais que la pensée ne pouvait sortir d'un amas de gélatine, quoique, tu n'étais pas loin, car cet être, au premier abord, ressemble à un amas de gélatine.
La prochaine fois que papa se pâme devant une tête de veau, je lui dirai « c'est un blob ». Du coup, je vais lui en boucher un coin.
Alors donc, ce blob, non seulement n'a pas de cerveau, mais pense. N'a pas d'estomac, mais mange. Tu peux le couper en 1000 morceaux, il se reconstitue. Pense qu'en 2 minutes, il cicatrise.
Mais tout cela est vrai ?
Mais oui. Par exemple, les chercheurs dans leur laboratoire ont pris un blob, l'ont découpé en dizaines de morceaux qu'ils ont disposés à l'intérieur d'un labyrinthe. Figure-toi qu'après un tel régime, n'importe quelle forme vivante sur Terre n'aurait pas survécu. Lui, le blob, s'est reconstitué et est sorti tranquillement du labyrinthe sans hésitation.
C'est complètement dingue. Imagine ma tête de veau. Tu crois que si la gélatine était un blob, il sortirait du plat ? Imagine la tête de papa à hurler de rire. Je vois déjà sa tête.
Eh bien, figure-toi que le blob semble immortel. Dans les situations impossibles, il se dessèche et attend que ça passe, le temps qu'il faut. C'est ainsi sans doute que depuis 500 millions d'années, il a survécu aux situations les plus extrêmes. Par exemple, aux USA, une personne ayant découvert cette masse gélatineuse dans son jardin, rappelle-toi qu'il adore les champignons, l'a pris pour un ovni. Tu vois, il n'y a pas que toi. Et a appelé les pompiers. Ceux-ci sont intervenus et l'ont incendié pour le faire disparaître. Le lendemain, il avait doublé de volume. Ah oui, j'avais oublié qu'il doublait de volume tous les jours dans sa période de croissance, qui s'arrête, heureusement, à la date de sa sporulation. Son âge de puberté, en quelque sorte. Bon, allez, j'arrête.